Bienvenue dans la deuxième partie de notre podcast Bilan de 2013, sur lequel nous allons revenir sur la situation du cinéma asiatique en France en 2013 et voir un peu l'avenir. Je pense que de toute façon, il y a quatre moyens de voir des films asiatiques actuellement, sont les sorties salles, dont on a déjà commencé à parler et dont on va parler encore un peu dans quelques minutes. Les DVD et le marché vidéo. Internet et les festivals. D'après vous, déjà, quel est le meilleur moyen de voir des films asiatiques pour l'amateur de cinéma asiatique en France en 2013? Où est-ce qu'on pouvait voir les meilleurs films asiatiques? Comme on a vu que les films en salle étaient plutôt pas mal, est-ce qu'il y avait des films plus intéressants ailleurs et quels étaient les meilleurs moyens de voir les films? Peut-être Alex, si tu veux reprendre sur cette thématique.
Ouais, tout à fait. Alors, pour de mon côté, je pense que c'est en vidéo et dans les festivals qu'on peut voir les meilleurs films. Alors en vidéo, tout simplement parce que c'est par ce canal de distribution. Alors quand je dis vidéo, j'inclus le direct VOD, la VOD, ce genre de choses. C'est par ce canal que sortent la majeure partie des films asiatiques. Et du coup, dans la masse, on arrive à trouver quand même des bons films. Que ce soit The Agent, New World, etc. Et durant les festivals, parce que ça nous permet de voir Confession of Murder, par exemple, qui sort en 2014 en France. J'y reviendrai un petit peu plus tard.
On détaillait ou en salle hein.
Et donc, ça nous permet de découvrir justement des films récents, qui certains sont sortis il y a tout juste quelques mois, voire quelques semaines en Asie. Et donc, c'est vrai que c'est assez plaisant, justement, de voir ces films récents.
Yannick, toi qui a peu accès, finalement, dans ta province reculée de Belgique, enfin à Liège, aux films, au cinéma, et qui voit défiler des dizaines de DVD tous les mois. Est-ce que tu partages cette analyse?
Ah, totalement. Je tiens d'ailleurs, juste avant de développer, je tiens quand même à revenir, vous parler du paysage cinématographique en France, mais un truc tout bête, Albator ne sort pas du tout en Belgique. Pas une sortie de prévue, rien, le film n'est pas acheté. Donc, chez nous, c'est encore un peu plus compliqué, même si on a quand même certains films comme Lunchbox ou A Touch of Sin qui arrivent. C'est quand même déjà un peu plus compliqué. Donc, effectivement, je me rabats assez facilement sur les sorties DVD qui sont nombreuses et sur les festivals qui sont un peu plus intéressants en Belgique et qui permettent de découvrir un paquet de bons films. Et finalement, mon top 10 se retrouve avec une grosse partie d'inédits DVD, voire de films vus en festival, parce que je rejoins les propos tenus précédemment. Il y a assez peu de films qui sortent au cinéma parce que c'est des prises de risque et on préfère effectivement sortir un film vers lequel les gens auront plus facilement envie de se diriger et que le cinéma asiatique n'entre pas forcément dans ce cadre. Mais les sorties vidéo permettent, alors j'espère qu'on va pas trop aller vers des sorties VOD, mais plutôt vers des belles éditions de beaux DVD, mais enfin ça c'est une autre polémique. Mais les sorties DVD permettent de découvrir pas mal de choses. Moi je citerai Nameless Gangster aussi, qui est un polar coréen qui m'a vraiment passionné, original, typique, une chose que de gangster absolument fabuleuse que je conseille ardemment. La sortie DVD est vraiment la direction que doit prendre le spectateur qui n'habiterait pas Paris ou qui ne pourrait pas faire le tour des festivals assez régulièrement pour pouvoir découvrir le cinéma asiatique.
Et est-ce qu'il n'y a pas justement au niveau des distributeurs salles et des éditeurs DVD un espèce de partage du marché qui va faire que maintenant un film de genre voilà, comme Nameless Gangster, Berlin Files, The Agent va plutôt sortir en DTV directement Alors qu'un film qui serait repéré en festival et qui serait plus du cinéma d'auteur, comme bon, on l'a vu sur The Lunchbox, hein, encore que ça reste une comédie romantique, ou Kore-eda, Jiazhen Ke, c'est-à-dire des grands noms, ou même des plus petits films comme Ilo Ilo, prendrait la direction des salles. Et c'est-à-dire qu'on aurait d'un côté le cinéma commercial pour le DVD, de l'autre côté le cinéma d'auteur pour les salles, et en fait au milieu, il y a quand même une grande diversité
Bah
du
oui.
cinéma en Asie, bah, il n'y a plus personne qui s'occupe de ces films-là.
Ouais, c'est un peu le problème de. Voilà, il y a un fossé qui se crée entre la case prestigieuse et comme tu dis, la case prestigieuse
Bon,
qui...
on s'en fout qu'il va toujours sortir
Oui, mais
un
c'est
bon
tout, voilà,
film.
c'est du prestige, quoi, parce que on s'en fout.
Oui, on parle cinéma asiatique parce qu'on est Asia, mais si on était dans ça de manière générale, il y a énormément de films bien qui ne sortent qu'en DVD parce que justement, ils sont pas le grand nom sur la jaquette ou ils ont pas.
Ouais, mais alors là, pour rester dans le cinéma asiatique, c'est même pas une question de grand nom, parce que par exemple, Nameless Gangster, il y a Choi Min-sik, c'est plus une question de catégorisation par genre,
Il y a de la
c'est un
série B,
polar,
voilà, ouais, c'est ça.
Ouais,
ça
mais si
sert
tu
pas
parles
en
de Choi
salle.
Min-sik à des gens lambda dans la rue, ils sauront pas qui c'est, tandis que tu leur parles de Danny Boone, là, ils saisiront.
Ouais, mais
Non,
bon,
mais
bah.
faut relativiser pour les distributeurs dans les salles cinéma. Je veux dire, diffuser un film en salle de cinéma, ça coûte effroyablement cher, bien plus cher qu'une distribution vidéo, et c'est des risques que
Oui,
très
sûr.
peu d'éditeurs sont prêts à faire, très peu
Distributeur.
d'éditeurs ont
Ouais.
même les moyens de le faire.
Mais après, comme dit Victor, il y a une sorte de classe moyenne, si on peut les appeler comme ça, qui se perd un peu dans le brouillard, quoi. Et finalement, et ces films-là, on ne voit pas la couleur, ni en DVD, ni en salle.
Sauf en festival. Il y a les festivals qui font encore ce
Voilà.
travail-là,
Ouais, mais
qui
les
vont
festivals, c'est pas assez
défricher
démocratisé encore. On n'est
et.
pas.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Est-ce que les distributeurs font vraiment les efforts nécessaires pour essayer de dénicher vraiment les
Après, c'est une
films
logique économique aussi,
Voilà, il y a
quoi.
une logique, c'est vrai qu'il y a une logique économique derrière, mais enfin, on se demande quand on voit tous les très bons films qu'on voit en festival, on peut penser que certains films pourraient marcher en France de par leur sujet, de par leur thème, et on se demande comment certains films ne sortent jamais alors qu'il suffirait que certains distributeurs fassent l'effort de voir les films dans les festivals pour.
Après, il y a le spectateur aussi. Est-ce que le spectateur est prêt à voir ce genre de divertissement-là?
Ouais, mais il y a plein de films qui sortiraient en France qui auraient un petit succès, qui auraient
Je
un
sais pas,
succès, je
la preuve,
pense.
voilà pourquoi Spike Lee fait son remake d'Old Boy. C'est aussi
Je suis
pour
sûr que
que
The Agent,
il y
qui
a.
sortirait en
Il
salle,
y a.
ça serait, serait, ça ferait, pourrait faire un bon 3 ou 400 000 Il y a aussi
en
un problème
France.
d'exploitant, c'est-à-dire que c'est pas sûr que pour un film de genre asiatique, il y ait une possibilité d'avoir un nombre de copies aussi important que pour un film américain ou pour un film français.
Je prends l'exemple de The Thieves, par exemple, The Thieves qu'on avait vu à Deauville, qui était un espèce de Ocean Eleven coréen, qui ressemblait beaucoup de gros noms coréens, même asiatiques, puisqu'il y avait Simon Yam. Et c'est un film qui aurait super. Enfin, si un distributeur avait fait les efforts pour le distribuer, il l'avait bien vendu, je pense que c'est un film qui aurait marché, par exemple, et Je sais
on
pas.
voit toujours pas la couleur, quoi.
Je
Alors
sais
c'est
pas. Mais le
Metropolitan.
problème, c'est que les éditeurs non seulement ne font pas toujours les efforts, mais en plus, des fois, on a l'impression qu'ils connaissent pas leurs films, que ce soit pour des sorties salles ou des sorties DVD. Je vois un film comme Nightfall qui essaye d'être vendu avec sa jaquette comme un film de tatane bourrin. Alors que c'est un polar malsain où il n'y a quasiment aucune action, il y a un truc qui ne va pas dans la manière de. Des fois, on a l'impression qu'ils regardent leurs films avant même de vouloir les vendre, quoi.
Possible. Bah, alors, il y a deux choses. Déjà, sur The Thief, je voulais juste ajouter que c'était Metropolitan qui avait acquis les droits
Ouais, mais
depuis
on voit
quelques
toujours pas
temps
la
et que
couleur,
normalement
quoi.
la sortie est prévue en DTV pour mai 2014. On verra si ça se fait ou pas.
Parce qu'avec Metropolitan, tous les trucs qui sont prévus et qui se font pas.
Bah, généralement,
Ah.
ils les sortent. Après, il faut aussi constater qu'au niveau du DTV asiatique, il y a une chute qui a commencé au milieu des années 2000 des ventes du cinéma asiatique. Et que effectivement, les éditeurs, il n'y en a plus beaucoup des éditeurs qui continuent à sortir de l'asiatique,
Ils sont frileux, quoi.
bah, sont frileux, mais ils le font aussi à perte. Que les distributeurs sont pas très chauds pour sortir un film asiatique vendu comme un film asiatique, donc il faut contourner un petit peu ça bah voilà, en masquant le fait que ça soit un film asiatique, en le vendant comme un film d'action alors que ce n'est pas forcément. Il faut que ça rentre dans des cases pour que les distributeurs fassent une mise en place qui soit assez importante bah pour que le film soit vendu après. Mais ça, c'est aussi dû à une baisse du marché. Enfin, La vente des DVD baisse, le Blu-ray a jamais décollé, la VOD décolle pas forcément en France. Donc voilà, enfin tous ces même pour moi il y a effectivement eu des très bonnes sorties des TV en France, notamment sur la fin d'année. Je les ai pas tous vus d'ailleurs pour le coup, mais sur The Agent, Berlin File, Nameless Gangster, etc. C'est pas dit qu'on en est au 2014 parce que ces films ont pas du tout, enfin semblent pas du tout marcher en fait. Dans mon vidéo,
En même
donc
temps, The Agent, enfin, je regarde peu la télé, mais la pub, elle a dû, pour le DVD, elle a dû apparaître genre il y a une semaine, enfin une semaine avant la sortie, quoi. Donc
mais
il y a
il y a un
aucun, ouais,
problème de
aucun,
promotion,
voilà, c'est ça
il
le
y a un problème de
problème.
promotion, mais il y a
Vous
aussi
avez dépensé tout leur fric pour Wing Fighters.
il y a
Wing
aussi
Fighters a bien marché, donc c'est un contre-exemple. Il y a Tai Chi Wing Fighters qui ont bien marché cette année, donc chez
Mais après,
Wolseley.
je pense que c'est aussi le public qui se. C'est le public qui ne suit pas non plus derrière aussi. Il faut
Voilà, ils
regarder.
préfèrent aller voir Danny Boone qu'un film asiatique, oui,
Non,
faut
oui,
le
non,
dire.
mais c'est un peu schématiser le truc,
Oui, c'est.
Alors, c'est pas juste Danny Boone, hein, mais si on reprend l'exemple que tu citais tout à l'heure du remake d'Old Boy
Bah oui.
pour le public américain,
Bah oui, c'est bien,
c'est exactement la même chose pour le public français.
c'est la
De
même
toute
logique.
façon, un film. Enfin, le même film, la même histoire, mais avec des acteurs français,
Bien sûr.
marchera toujours mieux,
Bien sûr.
même si c'est moins bien tourné, que sa version asiatique.
Et là, The
Ou avec
Thieves.
des acteurs américains, le public lambda
Oui,
préfère aller
voilà.
voir des films américains,
Bien sûr.
des remakes, d'aller voir des films
Bah,
asiatiques.
c'est pour ça que là, The Thieves, on parlait de The Thieves, mais s'il sort en 2014, les gens, la première chose qu'ils vont dire, ils vont dire que c'est un rip-off d'Ocean Eleven et que forcément, ils vont plus se tourner vers Soderbergh, Clooney et Matt Damon plutôt que du côté de Simon Yam et.
Bah, c'est pas dit parce qu'il y a le côté nouveauté, mais après, c'est clair que Metropolitan va le vendre comme ça. Ils vont le vendre comme un
Oui, c'est
Ocean
sûr.
Eleven
Déjà,
asiatique.
voilà.
Hein. Ça n'est pas forcément
Bon, ouais,
dans.
déjà, la
Non, dans
phrase
le fait, non, mais.
la phrase derrière la jaquette avec. Voilà quoi. Mais
C'est
surtout
dommage
que c'est assez
que.
différent quand même. Ça, c'est juste le pitch de base, mais finalement, le film, c'est beaucoup plus tourné vers l'action. Justement, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'éléments qui pourraient plaire au grand public dans The Thieves que dans Ocean Eleven, par exemple.
Après, moi, pour moi, c'est plus une manière d'amener les films vers le public. C'est-à-dire qu'effectivement, à mon sens, le DTV va. Enfin, il n'y a plus d'éditeur qui va prendre le risque de sortir des films en DTV. Les sorties salles, bah, on le voit, ça va être des films de prestige. Il
C'est
faut qu'il y
vrai.
ait un réalisateur, en fait. Et c'est même pas les
Voilà.
acteurs
Non,
derrière,
c'est un
ça va
auteur,
être.
quoi. Ouais, il faut.
Enfin, même Hong Sang-soo, parce qu'on parlait tout à l'heure de Chain Music. Chaîne Mystique est même plus connu que Hong Sang-soo pour le public français.
Oui.
Enfin, on peut pas. Hong Sang-soo, c'est
Mais
une élite.
Chain Mystique, c'est une gueule, en fait. On connaît pas forcément. Quoi, le
Ouais.
public occidental
Ouais.
connaît pas forcément son nom. Mais dès qu'ils vont voir son visage, ils vont dire, ah tiens,
Voilà,
lui,
c'est le mec qui a joué dans Old Boy,
voilà,
quoi.
c'est
Ouais,
ce mec-là, et ils vont.
Alors que
Donc.
Hong Sang-soo, il y a 1000 personnes qui connaissent en France, mais ils vont tous aller voir ses
Alors
films.
qu'Hong
Donc,
Sang-soo, les gens ne
c'est.
connaissent pas forcément à quoi il ressemble, mais ils connaissent Hong Sang-soo. Donc c'est assez.
Et par contre, c'est vrai qu'il y a toujours, il me semble, du téléchargement illégal hein, qui continue à exister sur des plateformes. On trouve n'importe quel film asiatique, fansubé, ou en tout cas avec des sous-titres anglais, dès qu'il y a un acteur coréen qui joue dans un drama ou un acteur japonais un peu connu. Il y a des fansubs qui font quand même le travail de sous-titrage. Donc c'est-à-dire que le public est quand même là
Bah,
pour
il y a
ces.
aussi de plus en plus de plateformes comme Wakanim par exemple qui proposent des contenus gratuits pendant une semaine ou je sais pas quoi et qui après
Sur
mais
l'animation, ouais.
c'est surtout l'animation, les mangas, tout ça. Mais justement, ce serait pas bonne chose de voir ce système se démocratiser aussi pour les films asiatiques qui ne sortiraient pas en France ou juste en VOD.
La VOD, c'est un système qui est intéressant dans les faits, mais qui a vraiment beaucoup, beaucoup de mal à décoller encore, quoi, les
Je
gens.
pense que le problème principal de la VOD en France, c'est surtout son prix. C'est-à-dire que maintenant, si tu veux voir un film récent sur ta télé, c'est 4,99 €. Et quand tu penses qu'un DVD, après son cycle de vie en promo, il est à 9,99 €, c'est un petit peu compliqué pour les gens de mettre 4,99 € pour un film.
Ouais, c'est. Mais est-ce que l'avenir, c'est pas des abonnements? Enfin, on sait que
Bien sûr.
Netflix va arriver en France. Il y a Canal Sat, il me semble. Canal Play, pardon, je sais plus quand.
Canal
Canal
Plus.
Play voilà, qui propose un catalogue de films. T'as un abonnement à 9,99, il me
C'est ça.
semble. et tu as accès à tout leur catalogue, y compris les nouveautés, etc. Donc,
Ça, c'est carrément le futur, quoi. Voilà.
Voilà, mais après, est-ce que ça va amener plus de films,
Bah si,
plus
parce
de
qu'en fait,
visibilité sur les films
non, mais parce que
asiatiques?
Netflix, ils ont
Oui.
Netflix ont un catalogue quasiment illimité, quoi. Ouais, c'est un peu utopique,
Ouais,
mais
mais
ils ont quand même
c'est
un gros,
américain,
gros catalogue.
Netflix.
Ouais.
Et
Oui, mais il y a.
ça veut pas dire qu'ils vont mettre en
Et
avant les films asiatiques.
voilà,
Ils vont
les
mettre en fin de
États-Unis
catalogue.
aussi ne mettent pas forcément en avant les films
Oui, mais
asiatiques, c'est ça le
après,
problème.
moi, mais après, si ce modèle économique arrive à se démocratiser en France, après, voilà, ça s'ouvre. Voilà, il y a peut-être un portail qui peut être spécialisé dans le cinéma
Oui.
asiatique et proposer un abonnement. Et
Ouais, après, c'est à Wildside et
voilà.
Metropolitan
Et
et les autres de faire
voilà.
leur abonnement
C'est
et de
ça.
mettre en avant tout leur catalogue
Parce
de
que le catalogue,
showrunner, de
ils
Mikasu,
l'ont. Hein.
etc.
Le
Oui.
catalogue, ils l'ont, il n'y a pas de
Ouais.
problème.
Et tous les films qui sortent pas d'ailleurs, enfin, de les
Bien
proposer,
sûr.
ils l'achètent, hop, ils le proposent
Bien
en
sûr.
direct ou tout VOD, mais que tu
Moi, je pense
payes
vraiment
dans
que
un
c'est le
abonnement. Je
festival
pense
en
vraiment
direct.
qu'une semaine après sa diffusion
Moi,
de
je pense
chaque
vraiment que c'est
festival,
l'avenir. Ouais.
Mais bon, il n'y a personne encore
Non.
qui le fait.
Et non.
Alors, en France, c'est aussi une question de législation, attention.
Aussi, oui.
Par rapport à. Parce qu'on parlait de Netflix qui apparemment arriverait en 2014. Ils ont même été rencontrés par certaines personnes du gouvernement. Alors, il ne faut pas oublier qu'en France, on aime bien changer les choses quand on n'a plus le choix. C'est-à-dire qu'on sort des solutions de téléchargement légal une fois que l'industrie du disque est à l'agonie. Et là, sur la vidéo, j'ai l'impression qu'ils font un petit peu les mêmes erreurs. C'est-à-dire qu'ils attendent vraiment d'avoir tué toutes les ressources légales possibles pour enfin se dire que des solutions comme Netflix, c'est possible. Parce que les gens, en fait, se focalisent sur Netflix, mais en France, on a des acteurs qui seraient capables de faire tout aussi bien qu'eux si jamais ils avaient la possibilité juridique de le faire. C'est-à-dire qu'on a cité tout à l'heure Canalplay, Pôle Futur, tous les acteurs de la VOD en France sont capables de proposer la même chose que Netflix si jamais ils ont le droit de le faire.
Oui, c'est vrai. Après, moi, je pense que ça va plutôt être des petits éditeurs sur le cinéma asiatique qui vont pouvoir faire ça, parce qu'il n'y a pas de raison pour que Canalplay mette en avant et aille tout d'un coup se dise on va acheter des petits films asiatiques qu'on va présenter au public, alors qu'ils peuvent présenter The Hobbit et Spider-Man 2. Enfin, ils vont avoir aucune raison de faire ça. Donc, je pense que c'est les éditeurs qui sont déjà en place sur le marché. Qui vont devoir, enfin, qui doivent de toute façon s'adapter à ce marché-là et proposer leur catalogue et leur découverte donc aux spectateurs. Et qui va plus venir le chercher d'ailleurs parmi eux que chez Netflix
Mais
ou Canal+.
en attendant que la loi, que la législation se fasse, ils pourraient quand même, voilà, ils pourraient voir leur politique de prix, revoir un peu leur politique de prix et proposer les vidéos à un prix plus attractif, quoi. Parce que là, 5 euros une vidéo que tu peux voir une fois, pendant, quoi, ou tu
Ouais,
peux
c'est
voir
ça.
pendant 24 heures ou 48 heures, c'est quand même super cher, quoi.
Parce que le prix dépend pas de la législation. Et
Non, bah
après, au
non,
niveau de
c'est
la
eux qui font
chronologie
le
des médias,
Le cinéma asiatique a toujours été très très cher. Enfin, les
Non,
DVD,
mais là,
même
c'est
à
tout, en fait, quoi.
l'époque,
Là, c'est
tout,
vraiment tout.
mais même à l'époque, le cinéma asiatique en général était toujours. Le nombre de films asiatiques qui sortaient en DVD qui étaient à 30 euros, alors que les autres films étaient à 20 ou 25 maximum, même à l'époque, c'est toujours été plus cher le cinéma asiatique en France.
Et après, il me semble que la chronologie des médias ne marche que pour les films qui ont une sortie salle. C'est-à-dire que
Tout à
s'il y a une
fait, ouais, c'est ça.
acquisition d'une sortie en direct ou VOD, il n'y a pas de raison pour que Wildside sorte demain, Why Don't You Play in Hell, en direct ou tout VOD. Et ils n'attendent pas 3 ans pour le sortir, quoi. Ils le proposent dans un abonnement, ils ne l'ont pas encore parce qu'ils n'ont pas la plateforme. Mais bon, après, c'est autre chose. Mais enfin, au niveau de la chronologie des médias, il n'y a pas de raison pour qu'il n'y ait pas une diminution entre un film qui sort
Comme
en Asie
les
et
séries
2 semaines
télévisées
plus
américaines,
tard,
hein, comme
il
les
est
séries
disponible
télévisées.
sur une
Parce qu'ils
plateforme
ont mis du
entière.
temps aussi à mettre en place un système qui permettait de voir les épisodes de séries télévisées américaines un jour après en France légalement. C'est-à-dire que là, c'est assez
Alors,
récent
ouais,
quand
mais
même. Si
encore
ça
une fois,
existe, hein.
ils
ils l'ont
l'ont fait
fait
au dernier moment,
parce que
quoi.
le téléchargement
Voilà.
a
C'est ça, hein. Enfin, ils ont fait
explosé
le
et que
choix, hein,
voilà,
voilà.
ils ont été au pied du mur et ils se sont dit bon bah.
Ça existe et c'est très cher.
Ouais.
En plus, ouais.
Ouais. Ça commence à baisser, il y a un peu
Ouais.
de. Enfin voilà, il y a une offre qui se crée. Non, ça commence pas à baisser. Il y a Jérémy qui me regarde
ah non,
avec
non,
des
non.
yeux. Mais comment ça? Où ça? Où est-ce que
non,
je
mais
peux
je me
avoir des séries moins
non,
chères?
mais je me rappelle qu'à l'époque de je me rappelle qu'à l'époque de Lost par exemple où il y avait des où tu regardais un épisode de sur TF1 vidéo là, c'était il y avait un prix de malade quoi pour regarder un épisode de
ouais,
Lost.
C'était 1,99
c'était pas le jour d'après quoi.
Non, même
6
plus
mois après quoi.
Non, c'était plus que ça.
Ouais, c'était plus. Si, il y avait quand même déjà
du plus du H24.
Ouais, du plus H24.
Mais alors que maintenant tu prends un abonnement sur Orange avec OCS TV. Et
ouais.
C'est quand même assez assez performant leur partenariat avec HBO quoi. Donc pourquoi pas après
ouais. Bon bah voilà, donc pour voir du cinéma asiatique, je pense que ce qu'on peut retenir de ce débat, c'est que
faut aller à Paris et aller dans les festivals
en 2014. Faut aller à Paris ou dans les festivals, ou voilà, en 2014 on n'ira plus au cinéma et on n'aura plus de DVD, on n'aura que du direct ou VOD.
Voilà.
Et avec des abonnements sur diverses plateformes, mais au moins si ça permet de voir des films qu'on peut voir nulle part ailleurs, c'est plutôt pas mal. Et de toute façon il faut que ça se développe, parce qu'actuellement le marché est pas voilà, il est pas des plus affriolants quoi.
Il y a quand même pas mal de festivals en province, festivals asiatiques en province. Par exemple, là, le festival japonais, ce qui est bien, c'est qu'il y a une session à Paris, et puis après, je ne sais plus dans quelle ville,
ouais.
La province.
Ouais, ça bouge un peu partout.
Ça
à
bouge
Paris.
Partout. Ouais.
C'est vrai qu'on peut, un peu clore en parlant des festivals qui ont marqué 2013. Je vais, comme d'habitude, vous poser une question bon, qui est pas compliquée, à laquelle vous allez pouvoir répondre. Non, en tout cas, le fait. Enfin, ce qui semble, c'est qu'il y a de plus en plus de festivals qui se spécialisent de plus en plus sur un pays. On a vu cette année éclore un festival du cinéma indien, donc c'était il y a quelques mois, qui s'est rajouté au FAST, qui est le festival des films d'Asie du Sud transgressif. Donc c'est un peu l'Inde et tout ce qu'il y a autour de l'Inde. Il y a le festival du cinéma coréen, il y a le festival du cinéma japonais. Et en fait, il ne reste que Deauville et Vesoul comme festival qui regroupent l'ensemble des cinématographies asiatiques. Et finalement, il y a une spécialisation de plus en plus importante par pays et par cinématographie. Est-ce que vous trouvez que c'est quelque chose qui se passe actuellement, ou est-ce que c'est
oui.
bien ou pas?
Ah oui, c'est bien, forcément, puisque ça permet de découvrir de plus en plus les cinémas de la plupart des pays asiatiques. Et on espère que d'autres films, enfin d'autres pays auront leur festival. Par exemple, je sais pas, le cinéma indonésien, c'est aussi très très intéressant.
Le cinéma kazakh, par exemple.
Voilà. je sais pas, il y a un festival de cinéma iranien qui non, pas encore.
Alors, ça, je pourrais pas dire avec certitude, mais ça serait
vous êtes
pas étonnant,
fan de cinéma iranien ici.
Ouais.
Comme si c'était péjoratif.
Non. Non, mais on dirait qu'il y a à boire et à manger dans le cinéma iranien. Mais non, mais Philippin, je sais pas s'il y a un festival Philippin, non, toujours
non, pas.
Pas
encore.
Non, mais même dans les cinémas, dans les festivals un peu plus généraux, il y a aussi pas mal de Vesoul, il y a pas mal de cinémas Philippin qu'on fait.
Cette année, Vesoul
ouais.
sera consacré au cinéma Philippin.
Ouais,
enfin,
plus,
il y aura
ça,
une, enfin, là, on va en voir, beaucoup.
Et même après, dans les gros festivals parisiens, par exemple, l'Étrange Festival, il y a toujours pas mal de films de festivals asiatiques, au PIF aussi. Il y a toujours du, enfin, le cinéma asiatique est vraiment très représenté dans tous les festivals.
C'est une autre question. Est-ce que finalement, outre cette spécialisation qui ferait qu'a priori on pourrait voir plein de films différents, parce qu'il y aura un festival qui présenterait une sélection des films japonais comme Kinotayo qui sont sortis cette année, le FFCP qui présenterait les films coréens, mais finalement est-ce qu'on ne retrouve pas toujours à peu près les mêmes films d'un festival à l'autre? C'est-à-dire que je pense à The Lunchbox, qu'on a vu, qu'on a découvert à Cannes, et qui ensuite a fait le festival du cinéma indien, a fait un festival au Forum des Images, et finalement c'est toujours les mêmes films qui représentent une cinématographie dans leur pays. Donc est-ce que ça tourne pas un peu en rond malgré cette spécification qu'il peut y avoir parmi les différents festivals?
Bah ça c'est pas vraiment propre à cette année 2013 quoi. En fait il y a toujours eu les bêtes de concours qu'on affiche dans tous les festivals quoi, mais ouais, c'est vrai qu'on a tendance à voir un peu toujours les mêmes films en festival, et que finalement même si on a le festival du cinéma japonais, indien, etc., mais c'est toujours les mêmes têtes d'affiche, et qu'on a, malgré la spécification, on creuse pas encore assez totalement la cinématographie.
C'est vrai, quand tu parlais de
c'est
Hope,
superficiel
par exemple tout à l'heure, bon, je l'ai raté au FFCP, je me dis il y a une chance pour que je le voie au Black Movie, il y a une chance pour que je le voie à Deauville.
Voilà.
Donc je le rattraperai quand même quoi. Donc Je ne sais pas si sur la question des festivals, Alex, tu veux rajouter quelque chose?
Non, mais c'est ça. Mais le truc, c'est que pour moi, en fait, c'est une chance supplémentaire de toucher un public différent. C'est-à-dire que le public de Cannes n'est pas forcément le même que celui du Festival indien, que celui qu'au Forum des images. Moi, je pense que même si, enfin, en prenant l'exemple de Lunchbox, même si on le retrouve dans plusieurs festivals, je pense que ça donne une visibilité supplémentaire. Bon, là, en plus, il sort en salle, mais ça donne une visibilité supplémentaire au film. Et enfin, moi, je suis partisan de plus on voit du cinéma asiatique, mieux c'est.
On voit toujours ce film-là. Et c'est ça qui me dérange un peu, c'est que, même si j'ai beaucoup aimé The Lunchbox, mais le truc, c'est que c'est ce film-là qui est, bon, c'est une vitrine, quoi, mais c'est ce film-là qu'on va voir, et c'est pas un autre, quoi. Et
c'est mieux que ce soit un bon film, quand même.
Des gens, s'ils se disent, tiens,
oui, c'est un point d'entrée,
ce film-là, j'en ai entendu parler, il est bien dans ce festival-là, et qu'après, ça lui permet de découvrir d'autres films qu'il n'y a pas dans d'autres festivals. Moi, ça me dérange pas.
Ouais, mais ça, c'est vraiment parce que tu es optimiste et que tu espères que les gens sont curieux de nature et que... Mais
après, mais je suis assez d'accord, moi.
Ah, vas-y, Yannick, vas-y, dis-nous.
Moi, d'une part, je suis assez d'accord. Et puis, d'autre part, il faut pas oublier aussi une chose toute bête, c'est que y a beaucoup de spectateurs qui peuvent pas faire le tour de festival, que ce soit de France ou même seulement de Paris. Et donc, s'il y avait tel ou tel film qui était montré seulement à tel festival, ça diminue quand même vachement sa visibilité, puisque quand même pas oublier que là le Lunchbox sort en salle, mais il y a quand même énormément de films qui sortent en festival qui ne mettront jamais le bout de le nez, que ce soit en salle ou même en DVD, et ça donne quand même plus de chance aux films. Et puis un truc tout bête, c'est vrai qu'il y a les mêmes films qu'on peut retrouver dans divers festivals sur une période donnée, mais souvent si un éditeur se dit tiens, je vais acheter tel film et puis je vais le sortir en salle ou je vais le sortir en DVD, c'est parce qu'il aura marché à 2, 3 ou 4 festivals. Il prendra pas le risque de pas forcément le risque d'essayer d'acheter un film qu'aura juste fait sa petite impression dans un festival.
Le cas de Lunchbox, il a été montré à Cannes, il a été acheté après sa diffusion à la Semaine de la Critique.
Mais c'est quand même un tout particulier, c'est ça aussi.
Non, puis je suis d'accord avec toi, Yannick, c'est très bien que tout le monde puisse voir le film, etc. Mais moi, ce qui me gêne un peu, c'est vraiment ce côté loterie un peu, quoi, où c'est The Lunchbox qui a tiré le pompon, quoi, et qui finalement tire un peu la couverture et que ça laisse un peu les autres films un peu dans le...
Parce que même sur la... On a beaucoup parlé depuis Cannes de la nouvelle vague du cinéma indien. On a fait une semaine là-dessus. Mais finalement, on s'est rendu compte que c'était 4-5 films qui étaient montrés partout et qui représentaient cette nouvelle vague. Globalement, les films produits par Anurag Kashyap, qui avait fait Gangs of Wasseypur. Il y avait aussi Ship of Theseus, par exemple, qui a fait le tour des festivals.
Bah là, on voit Monsoon Shoutout, qu'on avait vu à Cannes et qui maintenant fait le tour des festivals étrangers et qui a pas mal de succès aussi. Voilà. Et c'est toujours les mêmes. C'est cette sorte de loterie là, qui me dérange un peu. On sort le chouchou et puis on le balade un peu partout.
Il y a eu Ugly qui a fait le tour. Il y a aussi eu On the Job, je crois.
C'est Philippe. Hein, ça.
Pour le cinéma philippin, d'Éric Mathis.
Mais c'est pareil, c'est exactement le même système. Quoi.
Ouais. Voilà. Pour le film de genre. Et parce que Wildside aussi a les droits, il risque de sortir.
Je trouve que Wildside a aussi pas mal. Enfin, j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup d'emprise aussi sur pas mal de films qui sont en festival. Enfin, par exemple. J'ai l'impression qu'ils n'en font pas grand chose. Enfin, il y a des films, ils n'en font pas grand chose, quoi.
Bah là, on revient sur la problématique de tout à l'heure.
C'est ça le problème, c'est que.
Mais pour avancer, c'est vrai que finalement, ça crée une fausse perception, et je pense qu'on va aller sur la troisième partie, des cinémas nationaux, parce qu'on a l'impression qu'il y a une unité du cinéma indien. Exactement. À travers une nouvelle vague, qui en fait est une création purement occidentale autour de 4-5 films qui font le tour des festivals.
Et on en revient un peu à ce côté toujours à l'exotisme un peu, quoi, voilà, où on se fait une vision d'un cinéma au travers de quelques films et de quelques climats, d'atmosphères, etc. Et c'est pas représentatif de la cinématographie, quoi, dans son ensemble. Quand on voit les films de Kashyap, où c'est vraiment des polars stylisée loin du bling-bling bollywoodien, quoi. Et on n'arrive pas à saisir un peu toute l'ampleur du cinéma, et on a tendance après à faire des généralités. Et c'est là aussi un gros problème du cinéma asiatique, c'est le fait qu'on généralise un peu tous les types de cinéma, quoi.
Bon, on a besoin de catégoriser aussi, quoi, pour... Donc ça veut dire qu'on n'est quand même pas que des enfants gâtés qui font le tour de tous les festivals et on dit « Ah mince, on l'a déjà vu celui-là, c'est déplacé et tout, voilà pourquoi, pour revoir le même film. » Mais c'est vrai qu'après ça impacte en fait la perception qu'on a des cinématographies nationales de manière peut-être un peu biaisée et peut-être un peu différente de ce que sont effectivement les cinématographies dans les pays dont on parle ensuite. Mais c'est particulièrement présent avec l'Inde, j'ai l'impression, mais on l'a vu avec la Corée aussi, où finalement, enfin, l'image du cinéma coréen qu'on a en France est une construction principalement occidentale et qui ne correspond pas vraiment à la réalité du marché là-bas.
Ou le cinéma kazakh qu'on avait découvert à Vesoul en 2012, et où on s'était dit au début, ouais putain, on va se taper des films kazakhs, ça va être des trucs super contemplatifs, assez lourd, etc. Et finalement, on s'est retrouvé avec des westerns, avec certains films de genre ou des trucs comme ça. Et voilà, après, on a chacun une perception d'un cinéma, et finalement, et les festivals nous enferment un peu, des fois, dans ce genre de... dans nos perceptions, quoi.
Oui, j'avais vu dans les bonus de New World, ça m'avait beaucoup fait rire, l'organisateur qui disait qu'il avait voulu faire un polar assez un peu plus dur, parce qu'avait l'habitude du public coréen. Et finalement, malgré le fait qu'il ait quand même essayé de ne pas aller trop loin, un grand nombre de publics coréens avaient été choqués par la violence du film, alors que pour moi, spectateur occidental de polar coréen, j'avais trouvé ça relativement soft, quoi, par rapport à ce qu'on, à ce qu'on connaît, nous, de polar coréen, quoi.
On va revenir dans quelques instants, enfin juste en dessous en fait, donc tout de suite sur cette thématique donc des enjeux du cinéma asiatique en 2013 et avec cette thématique de la perception qu'on peut en avoir en Occident qui n'est pas toujours la réalité comme on va le voir ou pas. À tout de suite.